Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui a été donnée, ta parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ, Fils de Dieu et complètement homme, qui a souffert la mort pour nous donner la vie. Merci de nous éclairer, Seigneur, ce matin. Merci, Saint-Esprit, de nous parler particulièrement, individuellement, au-delà de toute chose. Que ce ne soit pas ma voix, Seigneur, qui soit entendue, mais ce soit la voix de ton esprit. Je suis qu'un serviteur inutile, Seigneur, entre tes mains. Alors parle à nos cœurs, ta parole est tranchante et nous transforme. Amen. Ça va? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous lever le matin de mauvaise humeur? Moi, jamais. Demandez à mon épouse. Sans savoir pourquoi. Parfois, avant même de poser un pied par terre, on sait que ça va être une journée difficile. Ça vous arrive? Et à d'autres moments dans la journée, on peut réaliser qu'on a pu avoir une semaine superbe. Et soudain, il y a une petite chose qui nous contrarie. On attend que notre conjoint fasse la vaisselle et il ne l'a pas faite. Bon, il y a du vécu. Hein. On attend qu'un collègue de bureau fasse son travail et il ne l'a pas fait. On attend quelque chose de quelqu'un, on ne l'a pas fait. Ou on fait quelque chose et on est déçu de nous-mêmes. Et ça va venir pourrir toute la bonne semaine qu'on a passée. Je me trompe ou pas? On vit les mêmes choses? Est-ce qu'on est de la même nature, vous et moi? Ah. Et alors, on se met à penser à plein de choses. Ouais, personne ne s'occupe de moi. Il n'y a que moi qui fais tout dans cette maison. Il n'y a que moi qui bosse dans ce bureau. Personne ne le voit. Etc. 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 Est-ce que... Allez, je vous pose une question. C'est de la rhétorique, ne répondez pas, mais réfléchissez-y. Est-ce que vous croyez que cette attitude-là émeut le cœur de Dieu? Nos complaintes intérieures ou même qui s'extériorisent, je pense qu'elles n'ont pas grand-chose d'utile. Et au contraire, ça fait couvrir une porte dans laquelle le diable peut s'engouffrer dans nos vies. Mais nous devons combattre dans nos vies. Nous devons combattre pour nos vies et commencer par arrêter de nous sentir désolés de nous-mêmes. Parce que c'est une émotion qui n'est pas une émotion de Dieu. Et là, je ne parle pas de cette émotion cette conviction qui nous pousse à la repentance, parce qu'on a besoin de se repentir devant Dieu. Quand quelque chose nous vient dans l'esprit et qui nous abat, qui nous détruit, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de son ennemi, de notre ennemi. Et nous devons combattre cet apitoiement que nous avons sur nous-mêmes. Encore une fois, je ne parle pas de la repentance. Merci. C'est un combat. Et entretenir des pensées comme celles-là ne vont pas nous aider à résoudre nos problèmes. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Vous avez essayé, vous? Est-ce que vous avez essayé par vos pensées qui sont pas forcément bonnes, de résoudre vos problèmes? Est-ce que ça fonctionne? Non. Mais on peut faire quelque chose pour nous y aider. Il y a quelque chose que nous devons faire que personne d'autre ne peut faire à notre place. Souvent, avec mon épouse, parfois on croit lire des choses sur les visages, et puis... T'es en colère, hein? Bah non, pourquoi? Parce que je lis sur ton visage des choses qui me laissent penser que tu es en colère. Ben non, mais tu n'es pas dans ma tête. Et c'est vrai, on n'est pas dans la tête des autres. Et notre responsabilité est déjà, premièrement, de faire du tri dans nos pensées. Et je vous propose de voir comment ce matin. Nous devons être comme David. Il s'encourageait lui-même dans le Seigneur. Il s'encourageait, David. « Mon âme, bénis l'Éternel. » C'est pas « mon âme est en train de bénir l'Éternel ». Non, je dis à mon âme, « bénis l'Éternel ». Vous voulez faire quelque chose pour que, ça aille mieux, que cela aille mieux dans votre vie ? Amen, oui, moi, oui. Moi, je veux faire quelque chose pour que ça aille mieux dans ma vie. Alors, frères et sœurs, mettons-nous en mouvement. Mettons-nous en mouvement, allons vers ceux qui ont besoin. Semons quelque chose en eux. Apportons-le de la part du Seigneur, une bénédiction. Romains 12, 21 nous dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bizarrement, quand je fais du bien aux autres, ça ne plaît pas au diable. Et quand je fais du bien aux autres, j'obéis à la parole de Dieu qui me dit de surmonter le mal par le bien. Nous avons besoin, semons un grain. C'est pas mal comme rime. Nous voulons que les autres fassent quelque chose pour nous. Ça arrive. Et nous sommes déçus parce qu'ils ne le font pas. Semons un grain dans leur jardin. C'est un des principes du royaume de Dieu. Matthieu 7, 12 nous dit « Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » Cela résume tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Et frères et sœurs, cela ne nous avance à rien de rester assis à attendre que les choses aillent mieux sans rien faire. Ça aussi, ça ne fonctionne pas. Nous savons tous que nous sommes pécheurs, moi le premier, et que nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire, comme disait l'apôtre Paul, mais le mal que nous ne voudrions pas faire. Et 2 Corinthiens 10, 4 nous dit « Car avec les armes avec lesquelles nous combattons, les armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Les armes que le Seigneur nous demande d'utiliser pour faire du tri de nos pensées ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles et elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et nous savons que nous ne pouvons pas être en même temps dans l'apitoiement et dans la victoire. Nous savons en revanche que Dieu est avec nous et il nous révèle sa pensée par son esprit. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. Waouh ! Est-ce que nous réalisons ce matin que le Créateur de l'univers, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière est apparue, est-ce que nous réalisons ce matin que nous avons la pensée de Christ ? Vous voyez déjà s'établir le contraste entre mes propres pensées, celle qui veut m'emmener toujours un peu plus bas, et la pensée de Christ. Et le combat, il est vraiment là. Le combat, il commence dans notre... Alors, je fais le signe de la tête, parce qu'on dit que les pensées sont dans la tête. La parole de Dieu voit les choses un peu différemment. C'est pas dans la tête, mais dans le cœur. Cela ne nous avance à rien de rester assis à attendre que les choses aillent mieux sans rien faire. Et comme je le disais, nous savons que nous sommes pécheurs et que nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Mais nous avons la pensée de Christ. Et pourtant, dans notre vie, on voit des situations qui sont injustes se produire. Le diable voulait vous cribler comme du froment, disait Jésus à ses disciples. Le diable veut nous attaquer dans nos pensées. Et souvent, au lieu de les réajuster, ces pensées-là, et de les soumettre à Christ, on les laisse travailler. Et alors qu'on devrait dire, non, je ne vais pas me laisser faire à penser n'importe quoi. Je ne vais pas me laisser faire, me laisser aller à penser n'importe quoi. Il n'y a pas si longtemps, c'est ce que je me dis tous les matins, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps, Esther devait rentrer, je ne dis pas ça parce que tu es là, mais c'est un exemple typique de ce qui peut se passer dans nos pensées. Elle était attendue à midi pour déjeuner. à la sortie du lycée. Et puis, Céline m'appelle. Écoute, je vois pas Esther. Est-ce que tu peux regarder où elle est? Alors, je sors mon smartphone. Parce qu'on se partage notre position mutuellement. Et puis, je regarde. Tiens, Esther, elle est devant le lycée. Et là, commence une lutte dans les pensées. Elle devrait rentrer, elle a fini le lycée, son portable il bouge pas. Je me suis laissé aller à penser tout un tas de choses, y compris l'éventualité qu'il se soit passé quelque chose, que son agresseur ait jeté le portable dans une poubelle devant le lycée. Mais vous voyez jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? Et si je garde cette pensée en moi et que je ne la soumets pas à l'autorité de Christ, mais je quitte mon bureau tout de suite et je rentre à la maison, je prends la voiture et je vais voir où se trouve Esther. Parce qu'en plus de ça, évidemment, j'appelle. Vous savez ce que c'est, hein, on achète un téléphone aux enfants et pour communiquer, mais ils décrochent jamais quand on les appelle, c'est comme ça. Je t'aime, Esther. Ne laissons pas nos pensées prendre le dessus pour nous détruire, pour nous mettre dans la peur, l'insécurité. Et en fait, après avoir fait ce constat, Seigneur, tu as ta main sur ma famille, tu as ta main sur Esther, je te fais confiance. Je sais que rien ne pourra nous nuire. Il se trouve que, oh, je n'avais pas vu tes appels. Bref, tout allait bien. Tout allait bien. Elle discutait avec un camarade à l'extérieur du lycée. Ceci dit, elle a mangé plus tard, mais ça, c'est pas grave. Ne laissons pas les pensées qui viennent dans notre esprit faire n'importe quoi, tout et rien en même temps. Ne restons pas apitoyés sur nous-mêmes, mais proclamons non, je ne vais pas me laisser faire et laisser mes pensées faire n'importe quoi. Non, frères et sœurs, Jésus n'est pas mort pour moi, pour nous, pour que je reste assis là à m'apitoyer sur moi-même. Et à pleurer sur mon sort toute la journée. Oui, j'ai des difficultés. Oui, 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 c'est vrai. Et nous en avons traversé. Et nous en traverserons encore. Vous l'avez vu dimanche dernier, quand ma fille était là. On traverse des difficultés. Ou dimanche d'avant, je ne sais plus. On traverse tous des difficultés. Et comme Élie, qui était au pied du genêt, a demandé la mort. Oui, ça peut arriver, évidemment. Nous ne sommes pas meilleurs que lui. Mais Dieu est là. Quand on est fatigué, déjà, on pense mal. Donc, reposons-nous, mais prenons les armes du combat dans nos pensées, parce que ça commence là. Et nous avons des armes, et la parole est une arme, la parole de Dieu est une arme, la prière est une arme, l'adoration est une arme. Vous avez remarqué que quand vous mettez de la louange à la maison, ça change toute l'atmosphère de la maison? Vous avez expérimenté ça? Amen. Et vous savez quoi? Si la prière est une arme, l'adoration est une arme, si la parole est une arme, avoir une attitude reconnaissante est aussi une arme. Une façon pour nous de prier davantage et d'adorer davantage le Seigneur, c'est en considérant chaque petite chose comme un sujet de remerciement à faire monter vers le Seigneur. On a plein de sujets. Et ce matin, en vous disant ça, vous pensez à ce que je suis en train de vous dire. Oui, il y a plein de sujets où le Seigneur m'a béni. Il y a plein de sujets où je peux ouvrir ma bouche pour dire « Ah Seigneur, merci pour ça. Merci pour la place de parking que tu m'as trouvée ce matin, quand j'ai dû me garer. » C'est une façon de marcher dans la présence de Dieu toute la journée et devenir un adorateur que Dieu recherche en esprit et en vérité. Et un adorateur, c'est pas quelqu'un qui se rend à l'église pour chanter de beaux chants tous les dimanches. Ça va plus loin que ça. L'adoration, c'est pas que le dimanche matin. L'adoration, c'est toute la semaine, c'est tous les jours de notre vie. Alors, c'est assez extraordinaire, moi qui suis dans l'aumônerie, où je côtoie d'autres confessions. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit « priez sans cesse ». Ça veut dire quoi, prier sans cesse? Pour certaines religions, prier, c'est être dans une attitude particulière, dans un endroit particulier. Mais prier sans cesse, c'est pas possible. Je peux pas toujours être dans tel endroit, dans telle position pour prier. Prier sans cesse, c'est être dans cette attitude constante de parler à Dieu. Amen. Ça résonne en vous ce que je dis là? C'est cette liberté que nous avons d'être en communion, en communication permanente avec Dieu par son esprit. Être un adorateur, c'est un style de vie. Pas un style de vie comme le monde les enseigne, l'enseigne. Non, c'est une attitude de cœur dans la présence de Dieu qui se nourrit au quotidien des « Merci Seigneur pour ça oh ». J'ai planté des jacinthes juste devant la fenêtre de notre... À chaque fois qu'on sort, on met notre nez sur les jacinthes comme ça. Qu'est-ce que ça sent bon ? Merci Seigneur pour l'odeur des jacinthes. Je crois que c'est des jacinthes. C'est ça ? Mais qu'est-ce que ça sent bon ? Remerciez le Seigneur pour les petites choses. Et vous allez voir, ça va changer notre attitude. Vous savez quoi ? Quand on pense trop, on a cette fâcheuse tendance à penser des choses négatives. Ou il n'y a que moi ? Il n'y a qu'à moi que ça arrive ? Et ces choses négatives tournent en boucle dans notre esprit. Ce sont des pensées de mort. Nous avons besoin de penser, de remercier plus. Nous avons toutes ces choses mauvaises et toutes ces choses qui se produisent en nous que nous n'aimons pas. Nous pensons à toutes les erreurs que nous avons faites. Au lieu de remercier Dieu pour les bénédictions, au lieu de remercier Dieu pour le pardon de nos péchés, au lieu de le remercier pour le sang de Jésus, le remercier parce que si nous-mêmes nous péchons, nous avons toujours cette espérance de changer. Est-ce que vous avez toujours l'espérance de changer ? Amen. De changer à la stature parfaite de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Seigneur, continue à travailler en moi. Continue à me changer à ton image. Parce que Dieu a fait de nous des nouvelles. Dis à ton voisin, je suis une nouvelle créature. Ou à ta voisine. Allez, proclamez-le. Je pourrais même lui répondre, quelle belle créature tu es. Allez, bénissez-vous, quelle belle créature tu es, mon frère, ma sœur, mon épouse. Ça fait du bien, c'est pas le monde qui nous dira ça. Philippe, tu es une belle créature. Puis t'as un beau prénom en plus. Arrêtons de penser à ce qui ne va pas. Nous avons besoin de commencer à remercier le Seigneur pour ce qui va bien. C'est pas de la pensée positive, on est d'accord, hein. Ça n'a rien à voir. Notre cœur, nos pensées, va automatiquement vers ce qui est mauvais et si on n'y prend pas garde, on peut tomber dans ce piège. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est la nature humaine, on est comme ça. Seulement nous avons été lavé par le sang de Christ. Nous avons été changés en une nouvelle créature, création. Et ça, peu importe où nous en sommes dans notre processus de sanctification, dans notre marche avec Dieu. Nous avons tous quelque chose que nous devons travailler dans nos vies. Vous savez, Paul parlait d'une écharde. Et je pense que chacun de nous, nous avons quelque chose en particulier sur lequel nous avons besoin de travailler. Que ce soit la patience. Ah, Seigneur, donne-moi de la patience, hein, mais vite. Hein. Que ce soit la douceur, que ce soit la bienveillance. Ça ressemble étrangement au fruit de l'esprit, n'est-ce pas ? Un peu comme ces sujets-là, un peu comme une écharde contre laquelle nous avons à combattre. Mais je crois quelque part que le Seigneur a laissé quelque chose en nous, une écharde, qui nous oblige à être conscient de notre humanité. Quand je suis conscient de ce que je suis, un pécheur, sauvé, mais un pécheur quand même, ça m'oblige à rester en communion permanente avec Dieu, en relation constante avec lui, en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de toi chaque seconde de ma vie, je ne peux pas me passer de toi. » Et cette écharde-là est là pour nous rappeler toute notre humanité. Et j'irai même plus loin, il a mis en nous son esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Wow. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Cette phrase m'a toujours fasciné. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Seigneur, est-ce que ça veut dire que tout ce que je fais de moi-même, c'est ma chair qui le fait? Je vous laisse cette question. Dieu a mis en nous son esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Dieu a mis des désirs dans nos cœurs. Mais il a mis son esprit en nous afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Alors nous avons un défi devant nous ce matin. Arrêtez de laisser nos pensées tourner en rond sur des choses qui ne vont pas. Et commencez à soumettre nos pensées à la parole de Dieu en lui remettant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand je commence à partir en vrille dans mes pensées, Seigneur, je remets toutes ces pensées-là captives à ton obéissance, parce que je veux t'obéir. Et c'est un combat qui est notre responsabilité individuelle. Votre conjoint ne peut pas combattre dans votre tête, à votre place. J'ai essayé, ça ne marche pas. C'est notre responsabilité individuelle. Afin de réaliser ce changement qui s'opère en nous et les bénédictions dont nous sommes au bénéfice et l'espérance que nous avons. Nous avons de l'espérance en Christ. Vous savez, le diable ne va pas vous féliciter ou nous féliciter d'avoir réussi tout ce que nous avons bien fait. Il va même essayer de nous faire croire que nous devrions faire preuve d'humilité et de rien d'autre. Mais cette humilité-là, en fait, n'est qu'un orgueil déguisé. Oui, Dieu agit au travers de nous. Mais pourquoi cacher les choses que Dieu fait au travers de nous, frères et sœurs ? Dieu fait de grandes choses. Comme je l'ai déjà dit dans mes déplacements, je dis « Seigneur, rends-moi spectateur de ce que tu peux faire au travers de moi. » Et Dieu a fait des choses extraordinaires et il en fera encore. Vous ferez des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites. Ça a été dit ce matin. Vous ferez des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites, a dit Jésus à ses disciples, parce que je m'en vais vers le Père. Frères et sœurs, vous allez faire des choses bien plus grandes encore. Mais pas pour nous glorifier nous-mêmes. Non, à Dieu soit toute la gloire. Amen. Alors ne rougissons pas de ce que Dieu fait au travers de chacun de nous. Oh, c'était bien ce matin. Ouais, merci Seigneur de ce que tu as agi. À lui soit toute la gloire. Mais continue Seigneur à te servir de moi. Continue Seigneur à te servir de chacun de nous pour ta gloire. Et ainsi, comme le dit encore l'apôtre Paul, et comme le dit l'Esprit de Dieu au travers de l'apôtre Paul, les uns et les autres vont pouvoir se réjouir de la grâce qui repose sur vous et de la façon dont agit Dieu au travers de vous. Amen. Amen. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions, de la décision, des pensées. Garde tes pensées plus que toute autre chose, mon frère, ma sœur. Car de lui viennent les sources de la vie. On ne peut pas avoir un esprit vaincu et en même temps une vie de victoire. Si vous êtes vaincu dans vos pensées, vous avez de fortes chances à être vaincu dans votre vie. Si notre esprit est abattu, notre vie sera triste. Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Combien de fois mes os sont desséchés parce que mon esprit est abattu? Combien de fois dans ma vie? Et ça arrivera encore. Et là, comme ça, là. Mon âme bénit l'Éternel. Philippe, relève ta tête. Je dis à moi, hein, pas à toi, Philippe. Relevons la tête. Un cœur joyeux est un bon remède. Refixons-nous sur Jésus-Christ. Si nous traversons une contrariété, posons-nous cette question de savoir pourquoi. Pourquoi je suis contrarié là? Qu'est-ce qui se passe? Garde ton cœur. Ça signifie que nous pouvons décider ce que nous allons faire de ce qui rentre dans nos pensées. Nous pouvons décider de rester contrarié. On peut décider de rester contrarié. Alors là, on peut toujours courir. De toute façon, c'est moi qui ai raison. On peut décider de rester contrarié. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et des fois, enfin, il y a quelques temps, je pouvais rester 3 jours. 7 à rester contrarié, à pas vouloir adresser, à rester dans ma grotte, quoi. Nous pouvons décider de rester contrarié ou faire en sorte que nous ne le soyons pas. Nous pouvons décider d'être de bonne humeur ou rester dans la mauvaise humeur. Nous pouvons rester misérables avec nos propres pensées ou nous pouvons nous encourager avec d'autres pensées, celles qui viennent de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons agir sur notre niveau de joie. Jésus a dit, je vous donne ma joie. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. On a tout. Si Jésus nous donne sa joie, est-ce qu'il donne un petit peu? Je donne un petit peu de joie. Non. C'est moi de décider. C'est moi qui décide. Allez, donne-moi un petit peu de joie. Mais voilà, stop. Je vais rester un peu contrarié, alors ne donne pas trop de joie. Non. Jésus nous a donné toute la plénitude de son esprit, de sa joie, de sa paix. Qu'est-ce que je décide de prendre? Qu'est-ce que je décide d'accepter de la part de Dieu? Nous pouvons décider de rester misérables avec nos propres pensées ou nous pouvons nous encourager avec d'autres pensées, celles qui viennent de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous voulons croire aux mensonges du diable qui veut nous laisser dans la tristesse, dans la peur? Ou est-ce que nous allons ce matin là, prendre la décision, frères et sœurs, de commencer à faire confiance à la parole de Dieu? Tout commence dans notre esprit, dans notre cœur. Nos pensées sont un champ de bataille. Quand le diable veut gagner sur notre vie, il commence par nous mettre une pensée, comme ça là. Une pensée qui n'est pas vraie. Une suggestion qui passe pratiquement inaperçue. Comme une petite vérité à peine déformée. Mais une petite vérité à peine déformée, c'est quand même un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, il manque un œil, et elle en mangea. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Le diable lui a dit, mais tu mourras pas. Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu mourras? Et qu'est-ce qui s'est passé là dans la tête d'Ève? Elle a commencé à réfléchir. Elle a commencé à réfléchir à cette pensée que le diable lui avait inculquée et que finalement, ça paraît raisonnable ce qu'il dit. C'est cohérent. Mais ça reste un mensonge. Mais elle n'est pas allée dans cette démarche de dire ça reste un mensonge. Et parfois, la foi n'est pas raisonnable. Parfois, le Seigneur nous conduit à faire rien de ce qui pourrait paraître raisonnable, en tout cas à première vue. Ce que Dieu nous demande, souvent, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que tu me demandes là? Quand il a dit à Abraham, pars. Mais je vais où? Pars. Il est où le sens de ce que tu es en train de me dire là? Faut que je m'en aille, mais je ne sais pas où aller. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de réfléchir avec l'Esprit de Dieu et non pas avec notre propre esprit ou notre chair. Si on commence à raisonner avec notre chair, on ne va pas aller bien loin. Et ce n'est qu'après avoir obéi à la parole de Dieu que nous nous rendons compte de là où Dieu veut nous emmener, veut nous conduire. Nos vies, frères et sœurs, sont supposées briller de la lumière de la vérité de Dieu et non pas se conformer aux mensonges du diable. Marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et je vais vous dire, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ne mettront pas longtemps à voir que nous sommes différents. Et nous n'avons pas besoin de prendre notre Bible et puis les assommer à coups de versets pour qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Mais simplement, alors même s'il faut le faire, attention, de temps en temps, évidemment qu'il faut le faire. Mais parfois, simplement, les laisser nous voir vivre, les laisser nous voir agir, nous les laisser voir le Saint-Esprit nous conduire, nous guider, nous transformer à son image. Et les gens viendront pour vous demander oh, « Je ne sais pas ce que tu as, mais ce que tu as là, je le veux. Il me le faut. » Je vous ai déjà dit hein, il y a quelques années sur un bateau où je travaillais, les collègues m'ont vu arriver avec un truc bizarre. Il n'est pas comme nous, il ne voit pas les mêmes choses, il ne parle pas pareil, il ne regarde pas les mêmes films, etc., etc. Et au bout d'un moment, cette curiosité, qui était d'abord de la moquerie, où on m'appelait l'abbé bière. L'abbé bière, bah oui, parce qu'il y a un peu de bière sur les bateaux, un peu, avec modération. Cette moquerie s'est transformée en interrogation, et de l'interrogation en presque respect, parce que j'avais quelque chose, Christ en moi, que eux n'avaient pas, et ce qu'ils venaient chercher. Et vous avez la même chose en vous. Amen. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et pour cela, nous devons rester enseignables à ce que Dieu veut nous enseigner. Il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Frères et sœurs, même si nous sommes au Seigneur depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, ou plusieurs heures, si on ne soumet pas notre intelligence, nos pensées, nos raisonnements, nos présupposés, nos certitudes à Dieu, ce sera comme si quelqu'un avait une fortune en banque sans savoir qu'elle s'y trouve. Nous n'avons pas à être désespérés, nous n'avons plus à être déprimés, jusque parce que nous avons commis des erreurs, parce que ce n'est pas la fin de toute chose. Oui, on fait des erreurs. Oui, on pêche. Mais nous ne sommes pas un perdant simplement parce que nous avons échoué. En revanche, nous échouons si nous arrêtons d'essayer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pensez pas comme le monde. N'agissez pas comme le monde. Ne désirez pas ce que le monde désire. Mais soyez transformés. Soyons transformés. Laissons-nous transformer par l'Esprit de Dieu. La transformation ne se fait pas instantanément. Ça peut prendre du temps, pas le même temps pour tout le monde. La plus belle image, c'est la chenille en papillon. Il y a des belles chenilles hein, parmi nous, hein, avec des belles couleurs. Il y a des chenilles, ça peut prendre de 6 à 10 jours, voire plusieurs mois pour les chenilles qui sont sous forme d'œufs. Vous saviez ça ? Moi non plus. Notre transformation, c'est notre sanctification. Cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit Hébreux 12, 14. Et je vais terminer avec ça. J'ai besoin que notre transformation s'opère d'abord en nous avant qu'elle se voie à l'extérieur de nous. Même si nous sommes sauvés au travers du sang de Christ, si nous continuons à penser comme un pécheur, notre vie sera toujours celle d'un pécheur. Oui, nous sommes pécheurs, nous sommes des pécheurs sauvés, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Si nous continuons à penser comme des pécheurs, non régénérés, non sauvés, non lavés par le sang de Christ, nous allons continuer à avoir une vie de pécheur. Soyez transformés. Soyons transformés. Si nous nous laissons transformer, nous comprendrons que nous n'avons plus à laisser nos pensées faire n'importe quoi dans notre cœur, dans notre esprit. Nous comprendrons que nous n'avons plus à ruminer des pensées qui veulent nous ruiner. Nous pouvons penser à ce que nous décidons de penser.
Ah,
nous pouvons penser à ce que nous décidons de penser. Comme je le dis, c'est un combat. Qu'est-ce qui se passe là ? Oula, il y a plein de choses. Bon allez, ça j'enlève. Seigneur, c'est toi qui as autorité sur mes pensées, sur mon cœur. Si nous connaissons la parole de Dieu, dès qu'une pensée arrive pour détruire notre vie, nous la reconnaissons. Nous la rejetons. Seigneur, je rejette cette pensée au nom de Jésus-Christ pour la remplacer par la pensée vraie qui vient de Dieu. Et de cette façon, cela produira de bons fruits pour ma vie, des fruits à la gloire de Dieu. Et je termine avec ces deux versets. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le créateur de l'univers. L'univers ne peut pas te contenir. Chose ô combien incompréhensible pour notre nature humaine. Merci parce que tu es venu en Christ pour nous réconcilier avec toi. Et dès l'instant, Seigneur, où tu es venu faire de nous ton temple, tu as mis ton esprit en nous, tu as fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je prie, Seigneur, ce matin pour ton Église, pour que tu mettes un collier dans nos yeux, pour que tu nous révèles ta pensée, Seigneur, parce que tu as dit que nous avons la pensée de Christ. Nous voulons, Seigneur, ce matin que tu nous révèles ta pensée un peu plus chaque jour, pour que nous soyons à même de combattre ce bon combat qui commence par faire du tri dans ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'il y a dans notre cœur. Que tu nous aides, Seigneur, à veiller sur notre cœur, car de là viennent les sources de la vie. Que tu nous aides à gagner ce combat, parce qu'il y a des luttes, mais la victoire, c'est toi qui l'as gagnée par le sang de Christ. Merci Seigneur de ce que tu as semé dans les cœurs ce matin, ce que tu as semé dans notre esprit. Merci de ce que tu nous transformes chaque jour un peu plus à la mesure de la stature parfaite de Christ, où nous n'avons aucun mérite, aucun. Mais ce que nous voulons Seigneur, c'est que tu te glorifies dans ton Église. Glorifie-toi Jésus, glorifie-toi dans ton Église, glorifie-toi dans chacune des vies ici présentes, représentées dans les familles. Parce que Seigneur, tu as un plan, des projets de paix. Tu veux que le monde sache combien tu es puissant au travers de ton Église, Seigneur. Garde-nous dans l'humilité, garde-nous Seigneur de vraiment te remettre toute la gloire à toi seul. Parce que toi seul mérites la gloire. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.